Sportez-vous bien.
Sportez-vous bien.
Sportez-vous bien. L'actualité sportive commentée par Jean Sureda.
Bonsoir, bonsoir à tous et bienvenue dans Sportez-vous bien sur Radio Présence. Nous sommes ensemble pendant une heure pour débattre avec mes chroniqueurs de l'actualité sportive de la semaine, le tout accompagné de sportifs de haut niveau. Au programme aujourd'hui, les mythiques coups de cœur et coups de gueule de nos chroniqueurs. Didier Rubio nous donnera les conseils santé, Lucas Cerdic, l'agenda de la semaine et enfin le débat avec le Paris Saint-Germain. Enfin, nous recevrons Léo Dallet et Benjamin Grand, les joueurs au stade toulousain de football australien. On va découvrir ça. Et avec nous ce soir, Mehdi Guillonneau. Bonsoir Mehdi.
Bonsoir Jean.
Et Maxime Brossard. Bonsoir Maxime.
Salut.
Alors j'ai annoncé Lucas Cerdic pour l'agenda, il est en retard. Comme d'habitude, c'est vrai que ça arrive souvent hein, quand même qu'il arrive en retard. Ne vous inquiétez pas, il arrive dans 4-5 minutes. Il va être essoufflé comme d'habitude, vous commencez à avoir
l'habitude. C'est le quart d'heure toulousain.
Ouais. Voilà, exactement. Et on profite pour saluer nos deux invités. Ils sont déjà dans les studios, Léo et Benjamin. Messieurs, bonsoir.
Bonsoir. Bonsoir.
Merci d'être avec nous hein, dans Sportez-vous bien sur Radio Présence. Première radio, deuxième radio, c'est...
Deuxième radio.
Est-ce que vous pouvez juste vous approcher un tout petit peu du... Voilà, c'est parfait, comme ça c'est nickel. On va parler, c'était l'anniversaire jeudi de Mehdi. Bon anniversaire Mehdi en retard.
Merci beaucoup, à vous aussi Jean, puisque c'était le lendemain.
Mais c'est vrai que c'était vendredi.
Que de naissance.
On a fait 25-26 avril, c'était parfait.
D'ailleurs je vous ai vu Mehdi vendredi dernier, vous n'étiez pas dans Blagnac.
Ce vendredi
Non, vendredi dernier, juste avant le match Blagnac-Bourgoin. Il me semble vous avoir croisé dans Blagnac. J'étais en voiture, j'ai pas pu m'arrêter.
C'est ça ou pas?
C'est possible.
C'est possible.
Et oui, en plus, il me semble qu'il était en charmante compagnie, donc j'ai pas osé m'arrêter. Mais...
Il est tout rouge. C'est magnifique. Il est tout rouge.
Ah, il me semble vous avoir vu aux abords du stade Ernest Argelès, c'était l'après-midi. Et je rentrais et il me semblait que vous rentriez du travail. Hein.
Exactement, j'étais en train de travailler, fille. Ouais. J'étais en reportage.
Voilà, c'est ça.
Je peux vous dire que les collègues sont sympathiques.
Bon, l'humeur du jour, mais Maxime, j'ai l'impression que ça va. Il y a Mehdi qui est tout.
Ah, c'est cadeau d'anniversaire, ça.
Voilà, exactement. Vous avez eu quoi pour votre anniversaire, Mehdi, justement?
J'ai soufflé des bougies. Ouais. Non, rien de.
Le truc classique. Spécial. Pas de Playmobil, rien du tout. C'est.
Non. Non. J'ai passé l'âge.
Bon. On faudra faire un cadeau l'année prochaine. Faudra qu'on oublie.
J'attendais un maillot de FC Sochaux de votre
que j'ai sur le dos. C'est vrai que j'ai le maillot de Sochaux, mais avec le logo Ligue 1. Vous doutez bien que.
Et collector, regarde-le celui-là.
Que le maillot il date de...
Il a au moins 15 ans quoi.
Il est sorti du musée.
Il a 5 ans le maillot. J'ai envie de pleurer. On va changer de sujet. Bon, tout le monde est en place. On peut démarrer maintenant avec les coups de cœur et les coups de gueule.
Sportez-vous bien. Les coups de cœur et les coups de gueule.
Comme chaque lundi, vous nous parlez d'un événement sportif qui vous a marqué, un exploit, une déception, une joie quelconque. On va commencer avec vous, Mehdi Guillonneau. C'est un coup de cœur, bien évidemment. La 4e finale de Ligue des Champions de suite pour un club français. Alors, vous doutez bien que c'est du football, mais vous doutez bien que c'est pas chez les hommes. C'est chez les femmes. L'Olympique Lyonnais, triple championne d'Europe en titre, va jouer une 4e finale de Ligue des Champions de suite.
C'est chez les femmes et comme chez les hommes, c'est pas le PSG.
Voilà, on va partir sur l'Olympique Lyonnais.
On part sur l'Olympique Lyonnais avec une qualification donc hier face à Chelsea qui avait justement éliminé le PSG au tour d'avant. Elles ont fait un partout dans le petit Stamford Bridge, c'est un petit stade juste à côté du grand stade
des
garçons.
C'est super, hein, c'est super sympa, ouais. c'est vraiment confiné.
C'est des petits stades à l'anglaise, c'est des vrais stades de foot, c'est tout petit, mais c'est voilà, y a vraiment une âme de football. Elles avaient gagné 2-1 à l'aller la semaine d'avant, donc elles ont moins maîtrisé que d'habitude. Elles ont marqué assez rapidement la 17e par Eugénie Le Sommer.
C'est chanceux.
Mais ouais, Sarah Boisdi a fait quelques arrêts. On critique souvent les gardiennes dans le foot féminin, mais là elle leur a été utile. Elle a fait quelques arrêts et donc elles seront en finale pour la 8e fois de leur histoire. Elles ont déjà 6 victoires, donc 3 comme vous l'avez dit juste avant.
De suite.
3 de suite. peut-être la quatrième, et ça sera face au FC Barcelone, qui chez les filles, ça sera leur première finale, ça sera à Budapest le 18 mai.
Et Lyon-Barcelone en finale de Ligue des Champions pour les femmes, c'était le huitième de finale de Ligue des Champions chez les hommes, où le Barça s'était largement imposé au match retour. Il y avait eu match nul à l'aller, mais au match retour, le niveau des Barcelonaises, c'est largement en dessous de l'Olympique Lyonnais. On rappelle pour les auditeurs, l'Olympique Lyonnais chez les femmes, c'est à des années-lumière de ce qui peut se faire dans le monde, c'est bien ça?
C'est exactement ça. L'Olympique Lyonnais est un peu l'équivalent du FC Barcelone au foot, voire même du Real Madrid en termes de titres, etc. C'est le plus grand club d'Europe, peut-être même un des plus grands clubs du monde. Excusez-moi, je suis coupé par une entrée fracassante.
Bonsoir Lucas Serdic.
Oui, bonsoir.
Vous allez bien, ça va?
Un peu essoufflé, comme toujours.
C'est ce qu'on avait dit.
Bon, j'ai couru.
Ça va?
Ça va.
On vous laisse 2 minutes.
Merci.
Pour vous installer.
Merci.
Ça va aller. On retourne sur l'Olympique Lyonnais. Donc le Lyon est largement favori face au Barça.
Exactement. Ils sont largement favoris parce que c'est la première finale du Barça. Mais moi, ce que je voudrais souligner, c'est que donc c'est la quatrième finale d'affilée avec les 3 victoires. Mais c'est que c'est dans un milieu de plus en plus concurrentiel. Les clubs mettent de plus en plus d'argent dans le foot féminin. Et pourtant, l'Olympique Lyonnais est toujours là. Et elles ont toujours les mêmes joueuses. Quand on prend le 11 type, c'est assez monstrueux. C'est des joueuses qui sont là depuis un moment, qui sont toutes internationales. Il y a peut-être 20, 22, 23 internationales dans l'effectif. Tous les week-ends, il y a des internationales sur le banc, même des américaines. Enfin, c'est assez impressionnant. Et
c'est vrai qu'elles ont deux équipes. Hein.
Elles ont deux équipes. Pour jouer le championnat, c'est rarement celle qu'on voit en Ligue des Champions. Il y a beaucoup de turnover.
Et quand vous dites américaines sur le banc, pour expliquer, chez les femmes, c'est les États-Unis qui survolent avec l'Allemagne et le Japon en général. C'est ces 3 équipes qui se battent pour le titre mondial. On le rappelle, la Coupe du Monde féminine, c'est en France, c'est cet été, c'est au mois de juin, où la France a est outsider, un peu comme France 98, si on peut faire la similitude entre les deux. On espère que ça va se terminer bien pour aussi bien, on va dire, pour les filles qu'en 98.
Quand on voit la base qui est à l'Olympique Lyonnais, les meilleures joueuses françaises, beaucoup des meilleures joueuses françaises sont à l'Olympique Lyonnais. Bon, on se dit que c'est peut-être l'année ou jamais pour l'équipe de France féminine qui n'a toujours pas de médaille au niveau, que ce soit championnat d'Europe, Coupe du Monde ou Jeux Olympiques, elle n'a toujours pas de médaille.
Exactement, et l'Olympique Lyonnais qui a été championne de France, qui ne jouera pas le maintien, c'est votre coup de cœur, Maxime Brossard. On change totalement de sport, on va parler de rugby, le maintien du Colomiers rugby. Oui. C'est vrai que vous nous en avez parlé souvent. Hein, c'était le fil rouge de l'année, c'est bon, c'est fait. Colomiers jouera en Pro D2 la saison prochaine.
Ouf, c'est bon, ça s'est passé. C'était hier, donc dimanche, ils jouaient contre Soyaux, Angoulême. Voilà, ils étaient, on va dire, dans une lutte à distance avec Bourg-en-Bresse. Là, ils ont pris donc 6 points d'avance, donc c'est mathématiquement fait, ils sont maintenus. La dernière journée, ils iront à Provence Rugby, très certainement de manière très festive, à mon avis.
Comme on fait dans le rugby.
Voilà, donc, c'est l'essentiel. En plus, c'est. La victoire était pleine de symboles, puisqu'en même temps, ils avaient fêté les 20 ans de l'épopée européenne de 99. Il y avait toutes les légendes de l'époque, notamment Fabien Galthié qui était là aussi, qui était venu au stade pour supporter l'équipe. Donc, ils ont fait les choses bien. Voilà.
Soirée parfaite, quoi.
Ouais, belle soirée. Et puis, la saison, c'est vraiment un soulagement, parce que la saison a été très compliquée. Ils ont changé 2 fois d'entraîneur. Il y a eu beaucoup de blessés. Il y a eu aussi ce match face à Montauban où il y a eu la fameuse bagarre, les suspensions.
On va parler bagarre hein, juste après avec Lucas Cervic.
Ça va être intéressant. Alors, on est content pour Colomiers, quoi. On est content qu'il y ait un club de Haute-Garonne qui reste encore en Pro D2, ça fait plaisir.
C'est une bonne nouvelle, Lucas Serdic, pour le rugby régional.
Oui, et puis même, j'ai envie de dire pour le rugby historique, parce que Colomiers, c'est quand même un club avec une riche histoire, effectivement, un club du Sud-Ouest qu'on est content de voir se maintenir en Pro D2 et parmi le rugby professionnel, puisqu'aujourd'hui, on sait que c'est quand même très compliqué, et je tiens à souligner leur fin de saison vraiment canon, parce qu'ils sont sur 4 victoires consécutives, donc ils l'ont vraiment acquis de belles luttes, ce maintien, c'est mérité. Pendant que Bourg-en-Bresse a sombré à Mont-de-Marsan, mais bon, on pouvait s'y attendre. Aurillac n'est pas sauvé. Attention à eux. Il y a 5 points d'écart, certes, mais Aurillac se déplace à Nevers, qui est très ambitieux. Pendant que Bourg-en-Bresse joue à domicile le dernier match, on ne sait jamais. Hein, on verra. J'espère pour Aurillac aussi qu'ils vont se maintenir, parce que là aussi, on est face à un historique.
Et puis, comme on l'a dit, pour parler des équipes du Sud, c'est vrai que la dernière fois, j'avais fait le chauvin, j'avais dit qu'il fallait défendre les équipes du Sud, mais c'est vrai, puisque là,
honnêtement, à mon avis, en fédéral 1, je vois bien Valence, Romans et Rouen monter en Pro D2. Donc, s'il y a encore un sudiste qui descend, ça va faire drôle. Après, on va tout supporter Albi. Quoi,
on en parlera pendant l'agenda de la fédérale, mais effectivement, en plus, on a appris que sur les 8 clubs qui sont en quart de finale, il n'y en a que 4 qui peuvent monter. Donc, effectivement, Valence, Rouen, Dax et
Albi. Ouais.
Et il y a, on va en parler justement tout à l'heure, mais la très bonne performance de Blagnac qui s'est imposée en quart de finale aller. Mais Blagnac fait partie des équipes qui financièrement ne peuvent
comme son adversaire par ailleurs.
C'est vrai. Gardez la parole, Lucas Serdic, ça va être votre coup de gueule. C'est le seul coup de gueule de la.
Ça fait longtemps que j'ai pas gueulé.
C'est vrai que ça fait longtemps. Ça doit faire au moins une semaine. on va parler rugby. On va parler derby. On va parler Castres. On va parler Toulouse, c'est les scènes de provocation entre Castres et Toulouse ce week-end.
Disons que c'est un match qui illustre de quelque chose que je trouve, on voit de plus en plus souvent, et je ne suis pas le seul à le penser, sur les terrains de rugby. Effectivement, avant, on pouvait se chauffer, on pouvait aussi se cogner dessus assez rapidement. Mais là, on est plus sur des petites mesquineries, des petites provoques à deux balles. C'est un derby, c'est bouillant. Le Stade toulousain avait envie de prendre sa revanche. Castres a de la fierté, il lutte aussi pour se qualifier et accueillir les quarts de finale à domicile. Bon, c'est normal que ce soit un match bouillant et un petit peu électrique, mais pas pourri comme ça. Moi, ça me dérange vraiment. Je trouve, enfin, je sais pas, Maxime qui connaît un peu mieux l'histoire du rugby que moi pourra peut-être en parler. Je sais pas comment c'est sur les terrains de fédéral, une que tu pratiques beaucoup plus souvent que moi. Mais là, je sais pas, ça me gêne un petit peu. Alors après, ça enlève rien au fait que ce match était par ailleurs plein d'intensité, plein de suspense. Voilà, avec un dénouement, j'ai envie de dire un petit peu, on a retenu notre souffle. Hein. Heureusement que Rodi Pileta a complètement foiré son match pour les Toulousains, tant mieux pour eux. Toujours est-il qu'on peut se passer, à mon avis, d'un peu de mesquinerie comme ça.
C'était votre coup de cœur entre guillemets il y a quelques semaines sur la bagarre, sur le chambrage du rugby. C'est totalement différent là.
Ouais, non, mais en fait, j'avais dit un coup de cœur parce que voilà.
C'était entre parenthèses.
Ce que j'aime pas, c'est que c'est que le sport trop édulcoré. Et là, bon, honnêtement, justement, il aurait mieux valu que ça explose en début de match et qu'après ce soit réglé, que ce soit l'affaire soit tassée.
Là, c'était tout le.
Voilà, coup, un carton rouge de chaque côté, on n'en parle plus. Après, c'est terminé. Mais là, ça a traîné tout le match, ils se sont chambrés et tout, avec Cocotte qui est insupportable. Je peux plus le voir. J'espère qu'il va se blesser d'ailleurs. Voilà, désolé, mais bon, je peux plus le voir. J'en ai marre de ce type. Et non, mais du coup, il a pourri tout le match. Enfin, c'était affreux. On aurait dû, honnêtement, même quand je vais voir des matchs de série, il y a une meilleure ambiance. Quoi. C'est catastrophique ce qui s'est passé là sur le terrain.
Donc bon, c'est un peu la responsabilité de l'arbitre aussi de ne pas mettre les points sur les i à ce moment-là au début du match pour.
Mais de tout le monde, je pense, même du côté toulousain. À un moment, bon, ça, on a vu Rda Pieta qui chambrait, Cocotte qui chambrait, Bonneval, il a son grain aussi. Fin...
À la fin d'ailleurs, quand Rda Pileta fait son en avant,
on
aurait pu se passer aussi du chambrage. Oui, on serre la main, le pauvre joueur
qui fait partie du sport, messieurs, non je vais me tourner vers les deux sportifs parce que pour nous, on parle, mais.
On n'y connaît rien.
Voilà, exactement. Je me tourne vers vous, les deux sportifs. Vous jouez au football australien. Est-ce que aussi il y a du chambrage? Comment vous recevez le chambrage d'adversaire, et est-ce que vous chambrez? Ça fait partie du jeu, non?
Ça peut en faire partie, mais disons qu'il faut garder une certaine mesure. Enfin, nous, dans le football australien, on est quand même une petite famille, on va dire. Tous les joueurs se connaissent et se fréquentent toute l'année, et ce depuis des années. Donc ça peut rester du chambrage sur le terrain. Après, on en vient très 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 rarement aux mains, et chez nous, il n'y a quasiment pas de bagarre, quoi.
Ouais, non mais moi je sais, dans le foot on en a parlé, hein, le chambrage ça fait partie, l'aspect psychologique, faire découper un joueur qui est bon.
Ça disparaît en ce moment.
Non mais ça peut se justifier, mais dans le rugby je trouvais que ça faisait un petit peu figure d'exception, justement, on s'en collait une et puis on n'en parlait plus. Là, ça pourrit un peu le jeu, je trouve.
Vous êtes pour ou contre, Benjamin Grand, le chambrage sur les terrains de foot, sur les terrains de sport, pardon? Vous êtes pour ou ça doit pas, c'est juste le jeu, uniquement le jeu sur le terrain?
Alors, sur le terrain, je pense que c'est le jeu le plus important. On voit beaucoup en ce moment au foot des supporters aussi qui chambrent. Il y a l'histoire des singes, des joueurs de singes.
Voilà, c'est du racisme.
C'est complètement inutile le sport.
Ouais. Ah, bien sûr. Bon, après le chambrage, il y a toujours des insultes, même s'il ne faut pas défendre les insultes, mais ça fait partie du jeu. C'est
trash talk, quoi. Qu'on appelle surtout aux États-Unis en fait. Quoi. Vous avez des grands joueurs comme Kobe Bryant ou Michael Jordan, c'était des spécialistes.
Bon, on verra bien la suite du top 14. On va en parler tout à l'heure avec, on va parler de terrain là, dans quelques minutes, avec la victoire du Stade Toulousain face à Castres. Enfin une victoire face aux voisins castrés. Nous, on se retrouve dans moins de 4 minutes avec les conseils santé de Didier Rubio. À tout de suite. Laurent Pagny sur Radio Présence.
Sportez-vous bien, l'instant santé.
La chronique santé cette semaine avec vous, Didier Rubio, comme d'habitude. On va parler cette semaine donc des plantes adaptogènes. Alors quand on a préparé l'émission, on va le dire un peu à nos auditeurs, on prépare l'émission, on se met d'accord sur les sujets à aborder de la semaine. Et alors là, quand vous m'avez dit plante adaptogène, le ginseng, c'est bien ça? J'ai vu flou. Qu'est-ce que c'est?
Bonsoir Jean, merci d'introduire comme ça la chronique. Donc on va faire une série effectivement sur les plantes adaptogènes, c'est-à-dire une plante donc, dont la capacité va être de réguler un organisme. C'est-à-dire si un organisme est en surexcitation, en surchauffe ou en surmétabolisme, cette plante aura tendance à calmer. À l'inverse, quelqu'un qui va être un petit peu down, hein, fatigué, un peu épuisé sur le plan immunitaire, ou voire même globalement, quoi. Ça va avoir tendance à un petit peu réveiller les esprits, si je peux dire ça comme ça. Donc aujourd'hui, on va évoquer le ginseng. Donc c'était
ginseng.
C'est ginseng.
À l'anglaise.
Alors, ouais. Alors du coup, c'est une plante originaire d'Asie, c'est une plante vivace herbacée, on dit comme ça. Et le nom, il vient du chinois, du mandarin, et on dit renchen. Et alors ça signifie, je dis ça juste parce qu'en fait, ça signifie l'homme racine. Et lorsqu'on voit une racine de ginseng, elle peut être surprenante parce qu'elle peut prendre la forme d'un personnage, quoi. C'est assez curieux. Donc là, la molécule et le principe actif du ginseng, ça s'appelle des ginsénosides. Donc ces ginsénosides sont phytoactifs, c'est-à-dire que véritablement, ils vont avoir une action, hein, sur des récepteurs. Après, ça devient un peu plus compliqué. Mais scientifiquement, il y a des études qui ont prouvé les bienfaits. Alors, elles ne sont pas hyper nombreuses. Bon, en Chine, oui, parce qu'ils sont... Eux, ils font les expériences. Ils ne font pas forcément des études comme on fait en Europe, mais ils sont sur la tradition et l'expérience. Sur l'immunité, par exemple, ça a montré ses effets. Sur la fatigue générale, ça a montré des effets. Ça a aussi montré des effets sur la protection gastrique. Par exemple, ça peut aussi l'ulcère, par exemple. Voilà. Aussi, il y aurait eu des effets qui auraient été montrés sur le diabète de type 2. Donc, c'est un diabète particulier qui n'est pas insulinodépendant. Ce n'est pas un diabète de type 1. C'est un diabète qu'on développe souvent par rapport à l'âge et tout ça. Donc, on aurait des régulations de la glycémie qui seraient meilleures. Voilà. Donc, c'est quelque chose que l'on prend tout simplement à très petite dose. Hein. C'est moins d'une cuillère à café le matin.
Et, sinon, ça devient un danger ?
Ben oui, parce qu'après, on ne sait pas justement ce que ça peut faire. Et moi, je conseille, par exemple, il n'y a pas que moi, hein, de le prendre plus tôt le matin, parce que c'est quelque chose qui va réveiller, qui va être un petit peu, qui booste, quoi, entre guillemets. Mmh. Donc, moi, je déconseille de le prendre en fin d'après-midi ou le soir, parce qu'on ne sait jamais, si on perturbe le sommeil avec, on n'est pas gagnant, quoi. Voilà. Moi, j'ai découvert du ginseng aussi dans la région, puisque...
On le trouve où, ici ?
Ouais, je pense que vous vous souvenez de Yannick Josion.
Oui.
Moi, j'étais fan de Yannick Josion et j'ai eu la chance de travailler avec lui en équipe de France, lorsque j'étais en équipe de France donc de rugby. C'est vraiment un garçon adorable, d'une intelligence aussi assez rare, qui est ingénieur, hein, en agronomie. Et donc, à Seyss, donc il a les jardins d'Occitanie. Donc, je suis allé visiter ses installations.
Et ils l'ont fait.
Alors, il fabrique du ginseng. Il faut savoir que la plante, elle met 6 ans à pousser. Hein. Elle pousse 6 ans et on récolte. Oui, oui. Et après, on récolte donc cette poudre et on en fait un principe actif. Et eux, ils peuvent se targuer, et je les soutiens, d'avoir certainement un des meilleurs ginseng au monde. J'insiste parce que c'est vrai.
Que nos amis chinois.
Alors, je ne sais pas, ils vont se fâcher peut-être. mais non, vraisemblablement, c'est d'une pureté incroyable. Et voilà, c'est français, c'est à côté. Il y a une garantie sanitaire exceptionnelle, mais vraiment. Et voilà, je me permets, je n'ai pas un conflit d'intérêt avec eux, je suis tranquille. Hein, mais véritablement, c'est très, très, très intéressant. Quoi. Et je pense que si on continue la chronique sur ça, on aura d'autres plantes à découvrir qui sont intéressantes parce que ça permet d'avoir un effet sur la santé.
Et on voit
sur
que les plantes, c'est important, tout simplement.
Et c'est de la phytothérapie. Et lorsque c'est bien contrôlé sanitairement, c'est très, très intéressant. Et ça fait partie de la panoplie nutritionnel en fait, de la performance et de la santé.
Nous verrons les autres plantes la semaine prochaine, dans 2, 3, 4 semaines.
Voilà.
Didier Rubio, merci.
Merci Jean.
On le rappelle, vous êtes diététicien et nutritionniste du sport, spécialisé en éducation thérapeutique. Vous travaillez également à mi-temps, hôpital des enfants et aussi en activité libérale dans le sport et la santé. Vous avez été formé en qualité de vie au travail et dans le sport. En plus, vous êtes conférencier et micronutritionniste. Vos coordonnées sont à retrouver sur Radio Présence.
Sportez-vous bien ? L'agenda sportif.
L'agenda de la semaine avec vous, Lucas Serdic. Comme d'habitude, je fais une petite parenthèse quand même.
Mais très rapide.
Très rapide. Vraiment. Promis. Maxime, oui. On va dire à nos auditeurs qu'il y avait du très très haut niveau. On va normalement recevoir Simon Gauzy la semaine prochaine, celui qui a fait quart de finale au championnat du monde de tennis de table.
Tennis de table, ouais.
Mais nous, on n'a pas joué au tennis de table, on a joué au ping-pong.
Ouais, parce c'est une catastrophe. Ouais.
c'est tout autre. Et on a été bons quand même, on peut le dire.
Ouais, bah, si vous vous trouvez, ça va alors. Hein, parce que moi, je me suis trouvé lamentable. C'était affreux.
On pourrait publier la vidéo, s'il vous plaît.
C'est vrai qu'on pourra filmer, on pourra filmer.
C'est inregardable, c'est terrible.
Et c'est vrai que Maxime n'a pas bougé derrière la table. Ah non, en général, on se met à mettre de la table, on va gauche-droite. Il n'a pas bougé.
D'ailleurs, les vrais ne bougent pas.
La prochaine fois, je veux une chaise pour m'asseoir. c'est trop physique.
Bon, l'agenda de la semaine, on va commencer comme d'habitude avec le rugby. On va parler rugby, football, basket.
Oui, parce qu'il n'y a plus que ça.
Il reste que ça.
Il reste que ça, en gros.
Un petit peu de handball, mais...
Non, mais là, on est vraiment dans la phase creux pour le handball et la Lidl Star League. Donc, non, on va parler vraiment que de
rugby.
Et de rugby.
Rugby, on va parler, bien évidemment, de la victoire du Stade Toulousain à Castres.
Tout à fait. La belle victoire du Stade Toulousain à Castres, 21-20, face au voisin, qui est resté quand même sur 5 victoires consécutives face au Stade Toulousain. Et bonus en prime, ça leur assure une place de demi-finaliste, c'est-à-dire qu'ils sont, ils sont sûrs de finir à la première ou la deuxième place, certainement à la première, vu comme ils sont partis. Ils ont, je crois, 12 points d'avance sur Clermont. Clermont, donc c'est quand même suffisamment conséquent pour voir venir. On va jouer la 24e journée ce week-end, et qui s'annonce comme ça, là, à Ernest Vallon, nonchalamment, j'ai envie de dire, la section paloise qui a redressé la barre, Pau qui a gagné 29-27 sur sa pelouse contre le Racing. T'y étais ou...
J'y étais pas malheureusement, mais après là je me dis que là, pour ce samedi, peut-être qu'on a une chance de faire un...
Non,
pas gagné, pas gagné.
Rien du tout.
J'ai pas gagné, mais vu que le Stade est déjà qualifié pour les demi-finales, là c'est mathématique, c'est fait, clairement c'est pas encore fait, mais peut-être que du coup ils vont y aller un petit peu plus doucement.
Coraline, on le rappelle, notre réalisatrice, je veux pas vous vexer, mais je pense que c'est déjà mort.
J'y crois, moi.
Ah ouais, non, mais là, vous avez manqué un magnifique essai de Vautou, d'ailleurs.
Oui, il était très beau.
Ah ouais, incroyable.
Et un très beau aussi plaquage, bien comme il faut au niveau manchette, de ce même joueur qui aurait mérité un beau rouge.
Ouais. Pas grave, ça.
Ouais, pas grave, c'est vrai. En tout cas, la section paloise va mieux parce que franchement, ça sentait mauvais pour eux. Et avec cette victoire face au Racing, 5 matchs, voilà. Ça va mieux, ils sont 11e. Ce sera samedi à 14h45, cette belle affiche, et à suivre aussi sur Canal Plus Sport.
Je pense que vous y serez au stade. Coraline.
Bah oui.
Bien évidemment. Et en rouge et noir, bien évidemment.
Un peu plus tard dans la journée, il y aura deux belles affiches à suivre. Ce sera à 18h. Castres-Montpellier. Castres qui est quatrième, donc, et qui vise l'écart à domicile. Et Montpellier, septième, qui vise tout simplement le top 6. Il y a 7 points d'écart entre les deux équipes, donc ça va être intéressant à suivre. Pendant ce temps-là, il y aura Agen aussi qui se déplacera sur la pelouse de Grenoble. Et attention, gros match pour éviter les barrages entre ces deux équipes. Agen qui a fait la belle paire du week-end en battant le Loup 25-15 sur sa pelouse. 6 points d'écart entre les deux équipes seulement. En Pro D2, on va jouer la 30e journée ce week-end. Dimanche à 14h30, il y aura tous les matchs en simultané. Il y a beaucoup moins d'intérêt pour nous au niveau de la Pro D2, puisque effectivement quasiment tout est joué. Colomiers va se déplacer sur la pelouse de Provence, mais Colomiers est sauvé, on l'a dit. Carcassonne va se déplacer sur la pelouse de Massy, mais pareil, Carcassonne de toute façon est sauvé depuis longtemps. Montauban avait acquis le maintien la semaine d'avant, et là ils iront jouer à Biarritz qui va viser la qualif, donc ça va être un petit peu compliqué pour les Montalbanais. Deux mots de fédéral, une, parce que quand même on a effectivement des bons résultats, enfin en tout cas un bon résultat en quart de finale aller du trophée Jean Prat, qui permettra évidemment aux équipes aux équipes de monter en Pro D2. Blagnac s'est imposé face à Bourgoin ce week-end 21-16, ils iront jouer leur match retour samedi à 19h. De toute façon, on le sait, Blagnac ne pourra pas monter puisqu'administrativement parlant
c'est compliqué.
Ils n'ont pas les moyens d'être en Pro D2, mais toujours est-il qu'ils vont être dans la course. 5 points à rattraper, à maintenir face à Bourgoin, c'est jouable. Alors qu'Albi a perdu sur la pelouse de Dijon 19-15, donc Albi va devoir mettre les bouchées doubles au match retour pour passer. C'est largement jouable, ce sera dimanche à 15h. Voilà pour la Fédérale 1.
Un mot de rugby à 13.
Le rugby à 13, pour dire que le Toulouse Olympique a battu York difficilement 30-26 ce week-end, et ils se déplaceront sur la pelouse de Dewsbury. Oh, c'est bien dit.
C'est samedi. On voit que je donne des cours d'anglais quand même.
Voilà. Inspirez-vous, Jean.
Ce sera samedi à 16h. Le Théo qui a sur 9 victoires lors des 10 dernières rencontres.
On change de sport, on va au football, la Ligue 1. Et le TFC, Saint-Etienne n'a pas réussi au TFC
mais
ce week-end.
Pas du tout, effectivement. Les grands ont perdu hier contre le Saint-Etienne à Saint-Etienne 2-0, pendant que les petits avaient perdu samedi en finale de Gambardella.
2-0 aussi.
Donc voilà, dur week-end pour les Toulousains face aux Stéphanois. Ce week-end, on va jouer la 30. 35e journée, le TFC accueille Rennes. Alors on peut se dire, attention, Rennes, ils ont battu Paris, mais en même temps, justement, ils ont battu Paris, ils sont qualifiés en Coupe d'Europe, ils ont un
et
match à jouer
en
pleine semaine. Donc
Monaco.
Effectivement, il y a peut-être moyen de faire quelque chose pour le TFC. Ce sera dimanche à 15h. Voilà pour le foot.
Et un mot de basket pour terminer.
Deux mots de basket, on va dire.
Deux.
Le basket féminin, surprise dans le mauvais sens du terme, hein, le TMB, les nos filles ont perdu en quart de finale le match 1 face à Reims à domicile 66-71. Elles jouent le match 2 demain soir à Reims et il va falloir qu'elles gagnent parce que sinon elles sont éliminées. Et si jamais elles gagnent, il y aura un match 3 à jouer samedi dans leur salle pour se qualifier en demi-finale. Ce serait vraiment pas mal pour pouvoir remonter. Et un tout petit mot de basket masculin, puisqu'en Pro A, on va jouer la 30e journée et il y a une affiche intéressante pour Pau qui va se déplacer sur le parquet de Monaco, le 4e contre le 3e. Ce sera ce soir à 20h45, hein, à suivre sur RMC2 pour ceux qui ont la chance d'avoir cette chaîne.
Et merci Lucas Serdic. Bon, je vois que Grégoire, notre réalisateur, a posé son sandwich. Il va pouvoir lancer le jingle pour le débat de la semaine.
Sportez-vous bien. Le débat.
Et défait en finale de la Coupe de France samedi soir par Rennes, le Paris Saint-Germain ajoute une nouvelle déception cette saison. Après l'élimination en Coupe de la Ligue par Guingamp et en huitième de finale de la Ligue des Champions contre Manchester United, le Paris Saint-Germain, pourtant champion de France 2019 et avec des moyens importants, semble être dans le trou, sans solution pour réussir ses objectifs. Messieurs, vous commencez à avoir l'habitude, on répond que par oui ou par non. Est-ce une mauvaise saison pour le Paris Saint-Germain, Lucas Serdic?
Bah oui.
Maxime Brossard.
J'en sais rien. Honnêtement, Paris. Hein. Je vais dire oui, parce que je les aime pas.
Et Mehdi Guillonneau.
Oh que oui.
Oh que oui. Bon, vous êtes d'accord. Voilà, c'est un seul titre pour le Paris Saint-Germain, c'est trop peu, c'est rien.
C'est
même
quand...
si c'est le titre de champion de France, c'est presque l'un des plus beaux sur le plan national.
Non, ce qui est vraiment décevant, c'est la façon dont ils perdent le reste. C'est ça le problème.
Oui.
On les attend sur des gros matchs et moi je reste parmi ceux qui vont les défendre sur le match retour face à Manchester United, mais j'ai beaucoup moins apprécié leur performance de samedi soir face à Rennes, puisque j'ai trouvé que pour ceux qui revenaient, Neymar notamment, et pour ceux qui étaient là et qui performaient, Mbappé notamment, pour ne pas les citer, je trouve qu'ils font preuve de trop de suffisance là. Je fais partie de ceux qui disent rien depuis plusieurs mois, mais qui trouvent que Mbappé a une mentalité qui va de plus en plus dans le mauvais sens. Il faut qu'il se remette en question assez vite, parce qu'on lui tresse des louanges à juste titre, hein. Il est très performant, il est excellent pour son âge, il est très intelligent, mais là il fait plus les efforts dans le bon sens. Et je pense qu'il y en a un qui va être d'accord avec moi, c'est Edinson Cavani, qui à un moment donné, quand Mbappé met son poteau parce qu'il joue, il joue le tir alors que s'il fait la passe,
s'il y a 3-2, il y a
3-2, on n'en parle plus. Et s'il y en a bien qu'à râler, c'est lui juste après. Voilà, Cavani, lui, il se bat pour l'équipe. Quand il rentre, il va défendre. Les autres, les deux autres, ils ne défendent pas. Donc c'est un gros souci. Et voilà, pour moi, Paris mérite ce qui lui arrive, en tout cas sur cette finale de Coupe de France.
Mehdi Guillonneau, est-ce qu'on peut dire que c'est la pire saison que 2017? On le rappelle, en 2017, il y a eu la fameuse remontada contre le Barça, victoire 4-0 à l'aller, mais défaite 6-1 au match retour. Ça avait été un tremblement de terre dans le football mondial. Et l'année-là, le Paris Saint-Germain avait perdu le titre de champion. Alors, ils avaient quand même réussi à gagner le trophée des champions, la Coupe de la Ligue, la Coupe de France, mais les deux plus gros, c'est-à-dire le championnat et la Ligue des champions, ils l'avaient perdu. Est-ce que c'est pire? C'est égal? C'est moins pire? On se situe où sur la saison 2019 du PSG là?
C'est moi ce que je voulais dire en disant un gros oui. C'est pour moi la pire saison de toute l'histoire. De l'histoire QSI, donc l'histoire récente du PSG, il n'y a pas pire. Parce que ce qui s'est passé à Manchester, t'es déjà prévenu, ça t'est déjà arrivé contre Barcelone, mais pourtant ça t'arrive une deuxième fois. Et en plus, ça t'arrive en Coupe de la Ligue et ça t'arrive par suffisance aussi en Coupe de France, où tu mènes 2-0 assez rapidement en finale avec deux magnifiques buts d'ailleurs, mais tu te relâches et tu te fais battre par le Stade Rennais qui n'est que d'ailleurs 11e de Ligue 1, même s'ils valent peut-être un petit peu mieux, oui, ça c'est sûr, parce qu'ils ont de très bons joueurs, mais oui, pour moi c'est juste que honnêtement j'ai même pas les mots. En début de saison, on avait beaucoup d'espoir avec l'arrivée de Thomas Tuchel, on en disait beaucoup de bien, et là maintenant ça devient catastrophique. Au début, on voyait un Tuchel souriant, etc., et même lui dans son comportement, il a complètement changé, il est tout le temps en train de se trouver des excuses avec en comptant les blessés,
il semble agacé. Tuchel, on va en parler tout à l'heure de Thomas Tuchel, mais c'est vrai qu'il semble agacé là en ce moment.
Il y a un changement de comportement mais flagrant avec avec Thomas Tuchel, ouais.
Il a quelques soucis aussi avec ses dirigeants, hein, clairement. Oui, voilà. Si ça avait tenu qu'à lui, Adrien Rabiot, il aurait joué toute la deuxième saison. Il y aurait eu 1 ou 2 milieux en plus à l'intersaison, donc il est pas content. Il se plaint de la profondeur de son effectif. Il a aussi la malchance d'avoir un nombre incalculable de blessés. Je suis pas sûr que tous les départs qui étaient faits l'été dernier avec des joueurs comme Lo Celso qui sont partis, Krikoviak. Enfin, quand on voit qu'il manque des milieux et qu'on laisse partir Lo Celso, il y a un gros souci.
Il y a un problème.
Donc, soit c'est l'entraîneur qui l'a laissé partir et dans ce cas c'est de sa faute, soit ce que je pense plutôt, c'est les dirigeants qui se sont dit bon allez, on va pas le retenir et il y a une mauvaise gestion à ce niveau-là.
Justement, on parle de gestion, Maxime Brossard. La faute à qui ? La faute aux joueurs ? La faute à l'entraîneur ou vraiment plus haut pour une fois ? C'est vrai qu'on a tendance à cibler les joueurs, surtout l'entraîneur. On va en parler un peu tout à l'heure des entraîneurs au Paris Saint-Germain depuis 2012 et l'arrivée du Qatar. Mais là, on a l'impression que Nasser, le président, il arrive au bout. Là.
Il y a un problème, je pense, au niveau de la direction, c'est clair. Ça se ressent surtout au niveau des entraîneurs, puisqu'à chaque fois, tous les entraîneurs se plaignent de la direction. Donc, c'est bien qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Mmh. Je pense que Nasser, c'est quelqu'un d'adorable, en plus très professionnel. On le voit, en plus, il fait l'effort de parler français et tout. C'est un de mes présidents que je préfère au niveau de la Ligue 1, d'ailleurs, même. Mais je pense qu'il a un peu trop d'emprise sur l'équipe, en fait. Et il faut qu'il arrête un peu de jouer à Football Manager. Il s'achète les joueurs et après, en fait, j'ai l'impression que c'est lui qui veut faire l'équipe, c'est son jouet, quoi. Sauf que non, ça marche pas comme ça. Et d'ailleurs, je pense que les meilleures années du PSG, c'était quand en face de lui, il y avait quelqu'un qui connaissait vraiment le foot et qui avait du caractère. Je pense à Leonardo, par exemple, qui avait de la prestance, qui avait du caractère, qui n'hésitait pas à lui répondre. Que là, bon, j'ai l'impression que c'est lui qui dirige et il fait un peu n'importe quoi.
Après, Tourelle, il est pas du genre visiblement à se laisser faire et peut-être qu'il va remettre les choses à plat. Il a prolongé, donc il a quand même moyen de négocier un peu mieux ce qui va se passer pour la suite. Et peut-être que si Nasser se rend compte effectivement qu'il a fait quelques erreurs, il va un peu plus faire confiance à son entraîneur allemand qui, il me semble, hein, vraiment, est pas imputable de grand chose sur ce qui s'est passé de mauvais au PSG cette saison. Je crois au contraire que c'est un entraîneur qui a vraiment du potentiel pour les amener loin.
Justement, on parle des entraîneurs. Il y a eu Carlo Ancelotti en 2012-2013 qui avait pris la place de Camguaré. Il y a eu Laurent Blanc pendant 3 ans où le PSG a eu ses meilleurs résultats sur les 3 ans de Laurent Blanc au Paris Saint-Germain. Deux ans Unai Emery et une année Tourelle. C'est pourtant Laurent Blanc qui a les meilleurs résultats et on nous vend toujours un entraîneur étranger. C'est terrible.
Moi, je ne vous vendrai pas Laurent Blanc si c'est ça que
moi,
vous
oui,
attendez.
Quel meilleur résultat,
profil,
en plus.
Mais les profils, ouais, c'est toujours la même chose.
Il a les 4 trophées plus un quart de finale. C'est-à-dire que le
mieux,
le mieux
depuis, c'est
4 trophées plus
8e. Les 8e qui passent, c'est pas non plus la folie. C'est non. Valence, c'est le Leverkusen.
Puis quels entraîneurs étrangers que tu prends, que ce soit Unai Emery ou Thomas Tuchel, ce sont des futurs grands entraîneurs à chaque fois que tu les prends. Unai Emery, il avait gagné des Ligues Europa, il n'avait pas gagné des Ligues des Champions. Par contre, en Carlo Ancelotti, avant, en fait, le PSG a commencé par le caviar. Ils ont commencé par avoir Leonardo et par avoir Ancelotti. Le PSG de Laurent Blanc a vécu sur ces recrues-là. Les Verratti, les Thiago Silva, c'est cette période-là. Et ils vivent encore avec toutes ces recrues de
Leonardo. Il faut qu'ils parlent justement, ces deux joueurs. Ils ont trop perdu avec le Paris Saint-Germain.
Moi, c'est mon sentiment en tout cas, oui. C'est pas une question
perdu,
de niveau.
C'est psychologique. On parle pas là pour une fois dans Sportez-vous bien, on parle pas de terrain, mais là on parle vraiment de psychologie de l'extérieur, bien évidemment.
C'est pas une question de niveau. Bien évidemment, ça se passe dans la tête. Et encore plus, moi je pense pour Thiago Silva qui a aussi les traumatismes avec le Brésil en plus. Et on remet pas en cause le niveau avec ce joueur-là qui est monstrueux, mais il a trop perdu quoi.
Là, je suis totalement d'accord, surtout au point de vue psychologique. Tous ces Brésiliens, il faut les mettre sous l'exomile, quoi. C'est pas possible. Ils sont tous en dépression, quoi. Ils sont tout le temps en train de pleurer, de se plaindre. Enfin, c'est catastrophique. Et en plus, si vous voulez faire le capitaine, qui est en l'occurrence Thiago Silva, Enfin, comment vous voulez suivre un type comme ça à la gare, quoi? Enfin, je suis désolé, mais vous voyez, il fait ouin ouin à chaque fois qu'il y a un truc qui va pas, c'est pas possible. Et pour justement, après aussi, pour contredire un peu cet argument, je trouve que pour moi, un joueur sur lequel ils peuvent s'appuyer pour le futur, c'est Marquinhos qui m'a surpris.
Oui, lui,
c'est quelqu'un qui vraiment, voilà, il a pas peur, voilà, d'aller devant la presse quand ça se passe mal. On voit qu'il prend ses responsabilités de plus en plus, et je pense que c'est un joueur qui a vraiment du potentiel en termes de capitana et qui peut amener vraiment quelque chose au PSG à l'avenir.
On prend Neymar, on prend Daniel Alves, on prend juste avant Thiago Motta. Tous ces joueurs ont gagné la Ligue des Champions avant de venir au Paris Saint-Germain. Il y a du très très haut niveau. Il y a Di Maria, il y a Draxler, il y a Cavani qui ont aussi performé avant de venir au PSG. Bernat qui l'a gagné, je crois, la Ligue
Di
des
Maria
Champions.
Di Maria l'a gagné aussi.
Et Di Maria aussi.
La décima.
Pourquoi quand ils arrivent au PSG, ils sont moins bons, ils sont moins dedans? C'est dû à quoi?
Je suis pas d'accord avec le fait de dire qu'ils sont moins bons.
La Ligue 1 est trop forte, c'est ça?
En fait, j'ai pas envie de faire de généralité. Je trouve pas qu'il y ait une espèce de raison à trouver sur l'ensemble des saisons et qui fasse que ce soit voilà cette raison là qui fait que le PSG ne gagne pas. À chaque fois il y a eu des excuses différentes. Je pense pas que ce soit un problème psychologique là pour Manchester. Vraiment, je suis un des seuls à le penser, je le sais, mais pour moi c'est une incroyable malchance.
Ah oui, non, mais contre Manchester je suis d'accord, ils ont 5 tirs cadrés, c'est 3 buts, une main et un ballon contré, donc c'est vrai qu'on peut pas leur reprocher.
Oui, mais pourquoi ça n'arrive qu'au PSG?
Mais ça n'arrive pas que au PSG.
Non, mais pourquoi ça arrive tout le temps, enfin très souvent au PSG?
Mais comment on peut dire une généralité comme ça, balancer, ça arrive tout le temps au PSG? Non, ça arrive pas contre le Barça, c'était un match foiré, foiré de chez foiré, qu'ils ont perdu à la première minute quand ils ont commencé à reculer. Ils l'ont perdu même avant de le jouer, ils étaient tétanisés, ils en ont pris 6. Manchester, c'est pas de bol.
Et Guingamp,
c'est pas de bol, c'est tout. Ah non, mais Guingamp et Rennes, c'est autre chose. Les types, ils avaient pas envie de le jouer, ce match. Voilà, ils avaient pas envie de le gagner, ils avaient pas envie de le jouer à fond.
Ça arrive.
Ce que je veux dire, c'est que c'est pas. C'est pour moi le seul match qu'ils ont vraiment perdu parce qu'ils étaient effrayés. C'est la remontada. Le reste, c'était soit de la suffisance, soit
et le Real l'année d'avant
aussi. Tranquille. Non,
le Real était trop fort.
Le Real était meilleur. Le Real était meilleur.
Si tu les écoutes, ils se voyaient pas moins fort.
Oui, non, mais d'accord. C'est une posture, mais tu vois ce que je veux dire. Ils ont joué à fond. Ils ont perdu contre plus fort qu'eux. Mais on parle du Real qui a gagné 4 des 5 dernières Ligues des Champions. Je veux dire, c'était pas des.
Le PSG se croyait meilleur pourtant.
Non, mais bien sûr. Mais n'importe qui se croit meilleur avant un match.
C'est un problème psychologique, ça aussi, de se voir au-dessus alors que tu ne l'es pas. C'est dans les conditions auxquelles tu mets les joueurs.
Ce que je veux dire, c'est que c'est pas de la fébrilité. C'est pour moi. C'est la fébrilité, c'était une fois, la suffisance une autre fois, la supériorité présumée, l'excès de confiance une fois. Enfin voilà, il y a un tas de raisons différentes à chaque fois.
Il cumule en fait.
Oui, il cumule.
C'est vrai qu'il cumule.
C'est un grand peu grave.
Et ça manque de quelqu'un qui remet les choses en place.
Messieurs, pour terminer sur ce débat avant de parler de football australien avec nos deux invités du Stade Toulousain. Football australien, c'est à préciser, on va en parler tout à l'heure. Quelles sont les attentes pour cet été, pour nous les observateurs du Paris Saint-Germain? Un milieu de terrain, je pense qu'on l'a compris, on l'a saisi. Qu'est-ce qu'il faut sur le plan de l'effectif, sur le plan de l'organisation du club?
Eh ben, il manque même deux milieux de terrain. Il manque un latéral gauche, puisque Kurzawa, bon, on a compris, out. Meunier risque de partir aussi, donc il va falloir un arrière droit, parce que Daniel Vess, à 36 ans, il commence à tirer la langue.
Ça, c'est débile quand même, par exemple. De
le prolonger. Alors, il est prolongé, il est sûrement prolongé parce que il faut faire rester Neymar, et je pense qu'il y a pas mal de ça, c'est, il a eu beaucoup d'affinité avec Neymar et on sait que ça se joue beaucoup là-dessus, oui. Avec les Brésiliens.
Moi, j'attends pas grand-chose en termes de transfert, parce que pour moi, l'effectif est largement de qualité suffisante.
On dit pas milieu, t'es obligé d'avoir des joueurs.
Oui. Tu rajoutes un milieu, ou alors, enfin, tu remplaces Rabiot. Voilà.
À Sochaux, ils ont des bons milieux.
Ce que je veux dire, c'est qu'il manque pas de talent. Il manque un peu de cervelle, quoi. Voilà. Oui. Il manque d'humilité. Il manque aussi de confiance. Enfin, c'est contradictoire tout ça, mais il manque de gagner les matchs avec la tête.
Bon, on verra le Paris Saint-Germain qui est déjà champion de France. La saison est terminée pour le Paris Saint-Germain. Surtout, là, ce qui va se poser, c'est qu'il y a beaucoup de blessés. Il y a la Copa América pour les trois quarts de l'effectif. Hein. Il y a des Brésiliens, des Argentins, des Uruguayens. Donc là, ils vont tous... Et même, il y a, par exemple, Choupo-Moting qui va jouer la CAN avec la Coupe d'Afrique des Nations. Donc là, ils vont tous avoir la tête ailleurs et ils vont pas vouloir se blesser. Donc on va voir fin de saison compliquée. Entre guillemets, pour le Paris Saint-Germain. Merci messieurs, nous on se retrouve là tout de suite, il n'y a pas de musique, il n'y a pas de pause, avec nos deux invités du soir.
Sportez-vous bien, l'invité.
nos invités sont membres du Stade Toulousain. Alors, c'est pas le Stade Toulousain du rugby à 15 qui est leader de top 14, mais c'est le Stade Toulousain du football australien. Après avoir parlé de football, après avoir reçu le football américain, Léo Dallet et Benjamin Grand vont nous faire découvrir un autre football, mais qui n'a rien à voir avec les deux précédents. Léo et Benjamin, rebonsoir.
Rebonsoir.
Bon, je me tourne vers Benjamin. Sur les grandes lignes, qu'est-ce que le football australien? C'est quoi?
Alors, le football australien, on peut aussi l'appeler footy. C'est plus court.
C'est mieux, oui.
C'est mieux. Donc, ça se joue en extérieur, sur un terrain en herbe, comme le foot et le rugby. On joue à 9 contre 9 en France.
C'est 18 contre 18.
Sinon, c'est 18 contre 18 en Australie. C'est un terrain ovale. Donc, pareil, en France, on n'a pas les terrains. Donc, on trace des arrondis sur les terrains de rugby. Mm. Le but, c'est de marquer entre les poteaux adverses. Donc, il y a 4 poteaux de chaque côté du terrain. C'est 6 points entre les perches.
Comme au rugby, milieu. Hein, c'est les mêmes poteaux entre guillemets qu'au rugby.
Les deux du centre sont plus longs que ceux des côtés.
Mmh, d'accord.
Donc si on marque au milieu, c'est 6 points. Si on marque sur les côtés, c'est un seul point.
D'accord.
Voilà. Pour les postes, ça se joue comme au foot. Milieu, attaque, défense. Sachant que le match commence directement chacun à son poste. C'est pas chacun de son côté, c'est le match commence direct à son poste. Mmh. Ça se joue au pied, à la main. Sachant qu'à la main, pour faire des passes, il faut boxer la balle. C'est pas une passe comme au rugby. Mmh. Voilà, faut boxer le ballon, sinon c'est faute.
Léo, c'est un mélange de football et de rugby, en gros.
C'est ça, en fait.
Si
on schématise largement, oui. Au niveau de la disposition sur le terrain, ça se joue comme au football. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de ligne d'avantage, il n'y a pas d'en avant, il n'y a pas tout ce genre de choses. Par contre, dans le jeu, ça peut ressembler au rugby parce qu'il y a des plaquages, parce qu'il y a des aspects un petit peu physiques avec des coups d'épaule qui ressemble au niveau physique du rugby. On peut se rapprocher un peu du rugby à 7, puisque ça joue très vite, il y a très peu d'arrêts de jeu. Okay. Il n'y a pas de mêlée, puisqu'il n'y a pas d'en avant, il y a très peu de pénalités. Le jeu s'arrête quand on fait des marques, donc quand on gobe une passe au pied qu'un copain nous fait. Ouais. Donc voilà, c'est un mélange de tout ça.
C'est un peu comme le football américain où il faut passer des zones, c'est totalement différent.
Alors non, il n'y a pas de zone. Le football américain, quand vous faites une passe et qu'il y a un receveur qui l'attrape et qui se fait plaquer, le jeu s'arrête.
Au moment où ils ont...
Nous, en fait, quand on fait une passe au pied et qu'on a un coéquipier qui la récupère, le jeu s'arrête et on a 15-20 secondes pour jouer le ballon.
Mehdi Guillaume.
Juste sur les ballons, c'est quoi comme ballon? C'est des ballons de hand, des ballons de foot, c'est quoi comme ballon?
Alors, c'est des ballons assez spécifiques, puisqu'ils sont en cuir, ils sont ovales. Ils ont un petit lacet sur le dessus. Donc, c'est un ballon de rugby
à l'ancienne,
petit. Ouais, c'est un petit peu, voilà. Mais plus léger, quand même. Plus léger.
Benjamin, les règles dans les plaquages, c'est pareil qu'au rugby ou c'est différent? On sait qu'il ne faut pas plaquer trop. Enfin, il y a des règles dans le rugby pour plaquer. Oui. C'est pareil.
Alors, il y a aussi des règles au football australien. Donc, il faut déjà plaquer un joueur qui a le ballon.
Oui.
On n'a pas le droit.
Ça peut être marrant quand même.
À savoir qu'on peut mettre des coups d'épaule même si le joueur n'a pas le ballon.
Il y a des sports où on plaque même sans ballon. Hein, oui. Notamment en Italie, j'ai entendu parler d'un sport comme ça. Bon, bref.
En division honneur, en Haute-Garonne.
Voilà, donc il faut plaquer entre les épaules et les genoux. Interdit de plaquer plus bas ni plus haut.
Carton rouge.
Il n'y a pas de carton.
Y a pas de carton.
Non.
Et est-ce que vous avez un nombre limité de tentatives pour aller marquer, en fait, comme au rugby à 13 par
exemple? Limité. C'est le ballon vit, c'est un sport très dynamique. Tant que le ballon est en jeu, n'est pas sorti, qu'il n'y a pas de marque, ça joue.
Quand il y a plaquage, du coup, l'équipe plaqueuse, entre guillemets, récupère le ballon?
Alors, ça dépend. Si le joueur plaqué a eu le temps de jouer, c'est balle au plaqueur. Si le joueur plaqué n'a pas eu le temps de jouer, on part en entre-deux comme au basket.
D'accord.
Ah, donc il y a même du basket en plus dedans.
Voilà, l'engagement, c'est comme au basket. Un entre deux, l'arbitre lance le ballon en l'air. Les deux plus grands de l'équipe en général sautent et on appelle ça des rucks.
Un mot sur le championnat. Il existe un championnat de France à 8-9 équipes.
Oui, c'est ça. Ça dépend des années, mais oui.
Et il y a deux équipes du Stade Toulousain dans la même division. Deux équipes du même club. Il y a le Stade Toulousain équipe A, le Stade Toulousain équipe 1.
Tellement ils sont forts, quoi.
C'est quoi?
C'est ça. Nous, on innove.
Parce que vous êtes trop forts, c'est ça ou...
Non, pas du tout. En fait, ce qui se passe, on est un sport encore en développement. Hein, d'ailleurs, on recrute. Hein. Et à Toulouse, on a un problème, c'est qu'on a un effectif qui est entre deux. C'est-à-dire qu'on a suffisamment de joueurs pour avoir une équipe. Et pour avoir deux équipes vraiment complètes, il nous faudrait beaucoup plus de joueurs. Mais comme on veut quand même faire jouer les gens qui viennent s'entraîner, des jeunes, etc., on a fait deux équipes. Et comme on ne veut pas faire de différence de niveau, on a trouvé ça. On a une équipe A et une équipe 1. Et on joue le championnat. Il y a aussi deux équipes à Paris.
Oui, c'est le même club aussi à Paris?
C'est le même club.
Maxime, t'as entendu ? C'est un mélange de rugby et de foot. Normalement, c'est pour toi, quoi.
Ouais, ça a l'air. Mais j'en ai jamais vu. Mais, j'irai voir le Stade Toulousain.
Il dit qu'il aime pas le foot, mais vous l'avez jamais vu balle au pied. Attention. Hein,
Si, j'aime bien le foot. J'aime bien le foot. Ouais. Ouais. Ça va.
Les matchs, c'est un championnat régulier, match aller-retour, et on détermine le premier champion, ou c'est un championnat et les playoffs, Benjamin ?
Alors, c'est un championnat en match aller seulement.
Il n'y a que des matchs aller.
Ouais, que des matchs aller.
Tirage au sort pour savoir qui est à domicile, qui est à l'extérieur.
Ça se fait en général selon le calendrier de l'année précédente.
Oui, c'est inverse.
Voilà, si, voilà, okay, on inverse les matchs. Et puis, il y a des play-offs avec demi-finale et finale.
Maxime Brossard.
Au niveau des équipes en France, de la géographie, par exemple, le rugby, bon, s'est beaucoup développé dans le sud-ouest, mais au niveau du football australien, comment ça se passe ? Est-ce que c'est des équipes un peu de toute la France, ou est-ce qu'il y a une région un peu qui domine ?
Non, c'est totalement réparti. Depuis le début, ça a été créé plutôt dans le nord, à Paris, à Strasbourg. Et après, ça s'est déplacé par rapport à des gens qui ont développé le sport, qui ont déménagé et qui ont créé des clubs dans les villes où ils sont allés habiter. Et donc, en fait, ça a essaimé des clubs de footy en France. Et aujourd'hui, ça continue de se développer.
C'est une petite famille.
C'est ça.
Quel est le niveau du championnat de France de football australien ? On le juge comment ? On le juge par rapport à quoi ? On le juge où ?
Alors, le juger par rapport à quelque chose que vous connaissez, c'est assez compliqué. Parce qu'on
connaît rien.
Parce que, non, c'est pas ça. C'est c'est un mélange de beaucoup de sports. Donc on pourrait pas. Nous, on a des gens qui viennent du rugby, on a des gens qui viennent du foot, on a même des nageurs qui viennent. Donc c'est vraiment très, très différent. Là, comme ça, je saurais pas vous donner une idée. Mais ce qu'on peut dire, c'est qu'il y a des profils qui sont un peu bien répartis sur le terrain, et donc tout le monde peut jouer. Peu importe le niveau, on a des grands, on a des petits, on a des un peu plus larges, on a des très minces qui courent très vite. On a vraiment tous les profils. Voilà, c'est un niveau où ça demande quand même un petit peu de physique pour pas se blesser, pour pas se faire mal,
pour absorber les chocs, quoi.
Voilà, pour absorber les chocs. Après, il y a moyen de se faire plaisir avec tout type de corpulence et de niveau, quoi.
Benjamin, est-ce qu'on vit de ça en France ? Est-ce qu'on est professionnel, semi-professionnel, ou c'est football loisir amateur
C'est complètement amateur. C'est vraiment on joue par passion la plupart du temps.
Et en Europe, il y a un pays qui domine, l'Irlande domine. C'est professionnel là-bas ?
Non plus. Non, il n'y a aucun pays.
Il n'y a que l'Australie, en fait.
Voilà, Il n'y a que l'Australie.
Et pourquoi on ne joue pas à 18 ici en France ? On n'a pas assez de personnes ?
Non, c'est parce qu'on n'a pas de terrain.
Ah.
On n'a pas de terrain.
Les terrains sont beaucoup plus grands, hein, c'est ça ?
Ouais.
Ouais. Les terrains, en général, font à peu près 180 mètres sur 130 de large. Donc ça nécessiterait d'avoir
Vous avez déjà eu la chance d'aller en Australie et de jouer à 18 contre 18, ou c'est un truc que vous n'avez jamais connu, en fait ?
Non. Alors nous deux, on ne l'a jamais fait. On a des joueurs qui jouent avec la sélection française, notamment.
Ah
qui,
oui.
Tous les 3 ans.
Ah, il y a une sélection quand même.
Il y a une sélection française qui, tous les 3 ans, va disputer une Coupe du Monde amateur en Australie.
Faut préciser Coupe du Monde amateur, puisque l'Australie ne l'a pas. Enfin, joue.
L'organise, mais ne joue pas.
Voilà, c'est impossible, sinon il n'y a pas de compétition, quoi.
Ouais.
C'est ça.
Ouais, c'est ça.
Et c'est la Papouasie-Nouvelle-Guinée qui est l'équipe de France, on va dire, de football. Aujourd'hui, c'est elle qui domine. Il y a eu 6 Coupes du Monde, 6 podiums, c'est ça ?
C'est ça, ouais, c'est elle qui domine. Les joueurs des îles, en général, figurent bien, parce que ça ressemble beaucoup au rugby à 7, notamment au niveau de l'intensité, qui
plus
à 18.
C'est ça.
Donc, ils ont un sacré physique.
Oui, ça doit être physique.
Comme les Fidjiens à 7, quoi.
Ouais,
comme les Fidjiens à 7.
Ouais, c'est ça. Ouais. C'est un peu les mêmes gabarits, et c'est les mecs qui sont très grands.
On est d'accord qu'il y a très peu de temps mort. Ça dure combien de temps, une phase ? Enfin, je sais pas pendant combien de temps on n'arrête pas de courir comme ça.
C'est 4 fois 25 ?
4 fois 20. Ouais, des remplacements, par contre, qui sont plus ou moins limités. Donc on tourne assez rapidement.
Ah bah oui.
Mais en termes d'intensité, ça ressemble beaucoup au rugby à 7. Sauf qu'on joue 4 fois 20.
Et en Europe, c'est l'Irlande qui domine. L'Irlande, Danemark, Croatie.
Ouais.
Alors, je fais le malin, mais on en a un peu parlé en antenne. Hein. Je rassure les auditeurs.
Oui, tu dis pas des pays comme ça au pif non plus.
Voilà. C'est l'Irlande, Danemark, Croatie, c'est ça ?
Angleterre.
Oui, c'est ça. L'Irlande, avec une grosse influence du football gaélique,
forcément,
qui se ressemble beaucoup. C'est vrai qu'ils dominent pas mal le sport en Europe. Voilà, ils ont des passerelles qui sont assez évidentes. D'ailleurs, ils font tous les ans, il y a un match international où, en fait, on vient mixer les règles entre le football gaélique et le football australien.
Ça doit être énorme à voir.
Ouais. Et il y a des joueurs de première division de football gaélique en Irlande qui font une équipe contre une sélection d'Australiens du footy. Et ils mixent les règles, ils font un match, c'est aller-retour.
Et ça donne quoi un peu ? Qui c'est qui gagne souvent ? Alors, je crois qu'en général,
c'est l'Australie. Hein.
C'est plutôt l'Australie, ouais. Mais l'Irlande, je crois, a gagné il y a, l'année dernière ou il y a deux ans. Mmh. Et,
Après, ça doit être énorme à voir.
Ouais. C'est déjà qu'on ne comprend pas grand-chose aux deux autres sports. Alors, si en plus on les mélange, ça ne va pas le faire. Quoi.
C'est spectaculaire. Après, voilà, il faut comprendre un petit peu, mais c'est agréable à regarder. Ouais.
On va parler du Stade Toulousain football australien, on le précise, pour ceux qui viennent de nous rejoindre. Quelle est la saison? Alors, il y a eu l'équipe du Stade Toulousain et l'équipe 1. Et dernière, c'est ça, je crois, et l'équipe A est troisième ou quatrième en partant de la fin. C'est bien ça, 5-6e.
Oui, c'est ça. On a une équipe aux portes des qualifications pour les demi-finales. On en a une autre qui galère un petit peu, quoi, qui est un peu juste. Donc là, il nous reste encore quelques matchs à jouer, notamment avec l'équipe qui est en phase de se qualifier, qui va peut-être se qualifier. Donc voilà, on intègre des nouveaux joueurs tous les ans. Donc... on essaye de développer le sport et d'être aussi présent et d'être à chaque fois assez nombreux au match. Donc pour l'instant, voilà, on a espoir de qualifier une équipe au moins en demi-finale.
Maxime Brossard.
Oui, c'était pour savoir si aussi. Alors, est-ce qu'il y avait d'autres équipes de footy dans l'agglomération de toulousaine?
Dans la région.
Ouais. Ouais, ou même dans la région carrément. Et en fait, pour savoir comment ça s'est passé, en fait, est-ce que c'est vous qui avez démarché le Stade Toulousain pour avoir l'appellation Stade Toulousain, ou est-ce que ça s'est créé? Comment ça s'est fait en fait ce rapprochement?
On a quelques joueurs qui étaient des espoirs du Stade Toulousain.
Il y a le président qui est mort de rire.
Il est mignon, il nous envoie à l'abattoir.
Débrouillez-vous. Hein.
Non, en fait, on a deux joueurs qui sont des anciens espoirs du Stade Toulousain, et dont un qui a sa mère qui est bénévole là-bas. Donc voilà, le rapprochement s'est un peu fait comme ça. Sachant que le Stade Toulousain abrite plusieurs sports.
Il y a le tennis, il y a le rugby, bien évidemment.
Il y a du rugby aquatique, on a appris.
Ouais. Ouais, de l'escrime, du vélo.
Je crois qu'il y a même du football, tout simplement. Je crois qu'il y a du
rugby. Non, il n'y a plus le foot.
Il n'y a plus le foot.
On va monter l'équipe, tiens. Voilà, on lance un appel.
On va monter le Stade Toulousain football.
Vous c'est pouvez, pas, ça va le faire.
Peut-être tu cherches les ennuis, toi.
Bah, vous au gardien.
Non, je suis à la retraite, moi.
Vous au but.
C'est fini, là.
Vous au but, c'est réglé.
Et pour revenir sur l'agglomération, du coup, ou la région, il y a des derbies, vous avez des matchs un peu tendus, du coup, à disputer des fois ?
Alors, les matchs les plus tendus ou les plus proches, en tout cas, c'est Toulouse-Toulouse en général. Ah ouais. C'est le plus proche. Après, on a l'équipe de Bordeaux aussi, qui ça fait souvent des matchs un peu serrés.
Perpignan aussi.
Alors, Perpignan avait une équipe, mais là, c'est un peu en train de péricliter. Il y avait aussi Montpellier qui avait une équipe. Donc on espère qu'ils vont se remonter puisqu'ils n'ont plus assez de joueurs.
Il y a Bayonne qui s'est monté cette année, qui sont déjà dans le championnat. Qui sont bien.
Donc il va y avoir des derbies. En 30 secondes, parce que c'est déjà la fin de Sportez-vous bien, en 30 secondes, l'objectif de la fin de saison, vous en avez un petit peu parlé, c'est d'essayer clairement d'envoyer une équipe en demi-finale du championnat.
En demi-finale, voilà, c'est ça.
Donc ce sera quand à peu près les demi-finales?
C'est au mois de juin, je crois, début juin.
Ah oui. Heureusement que le président est là pour confirmer quand même. Hein.
Et le prochain rendez-vous?
Ce week-end. On joue à Sordello, donc à Pêche David, au-dessus de Rangueil. Deux matchs à 14h à 16h.
Ah oui.
Le message est passé. Merci messieurs d'avoir été avec nous.
Merci à vous.
Portez-vous bien ce soir. Merde à vous pour le week-end
prochain.
Et
allez, c'est reparti. Les insultes encore.
Merci à Coraline et Grégoire à la réalisation. Merci à vous messieurs. On va suivre bien évidemment le Stade Toulousain contre Pau le week-end prochain. Vous pouvez retrouver demain dès 7h Rémi Souloumiac, Isabelle Honneil et Corinne Saint-Félix. À 9h, Vivante Église avec Emmanuel Pella. Bonne semaine avec Radio Présence.
Bonsoir.
Bonsoir. Bonsoir.
De la musique, de l'opéra et des experts tous mélomaniaques. Voici Mélomanie. Amoureux ou amateurs de musique classique, venez partager l'analyse et le coup de cœur de